Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Bonne année à tous au nom de toute l'équipe. Dans un instant, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein, le premier de l'année 2020. Et puis le débat d'actualité ce samedi. Faut-il se ressembler pour s'assembler? C'est la question que pose l'anthropologue et sociologue Nicole Lapierre dans un essai qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Livre passionnant qui interroge notre époque et qui propose un manuel de résistance aux discours conservateurs et réactionnaires. Minorité, assimilation, famille nationale, tous ces sujets sont débattus dans le livre et on en parlera avec donc Nicole Lapierre dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Et le premier duel de 2020 avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et au sommaire des élections qui se profilent dans les mois qui viennent. Et puis vous avez chacun choisi un événement, un phénomène important de 2019 dont il faudra suivre les répliques ou les développements au cours de l'année 2020. Et pour commencer, Gilles, pour vous, il faudra être vigilant à ça.
Si on continue, nous les citoyens, à avoir une défiance dangereuse vis-à-vis des politiques, et si les politiques, dans le même temps, ne s'inspirent pas de la créativité, de l'inventivité, de l'intelligence des citoyens, on n'y arrivera pas. Chacun doit jouer son rôle. C'est bien de notre survie dont il est question.
Cette parole grave, c'est évidemment Nicolas Hulot qui l'a prononcée, auditionnée vendredi 15 novembre 2019 par la Convention citoyenne pour le climat. Et pour vous, Gilles, cette Convention citoyenne pour le climat, 150 citoyens tirés au sort, c'est quelque chose d'important, mis en place il y a donc quelques mois, mais qui devrait donc aboutir à des résultats ou qui devrait aboutir à quelque chose d'important dans les mois qui viennent?
Ah, il faut l'espérer. Réfléchissons à ce qu'ont été les événements marquants de l'année 2019. On peut évidemment hésiter parce qu'il y en a eu beaucoup. Je pensais au suicide de cette directrice d'école qui m'avait beaucoup marqué, à des événements historiques comme le Brexit, à un certain nombre de protestations sociales et politiques dans le monde. Mais si j'ai choisi la Convention citoyenne pour le climat, c'est en raison à la fois de l'enjeu lui-même, de l'enjeu climatique, après une année 2019 qui a été une année terrible, qui a été une année qui a été marquée à la fois par des feux d'une ampleur qu'on n'avait pas connue, par des températures d'une ampleur que nous n'avions pas connu, par une mobilisation citoyenne sans doute nouvelle et par une inaction politique plus importante avec notamment à la fin de l'année dernière l'échec de la COP25. Donc il y a cet enjeu climatique, mais il y a, et c'est pour ça que je l'ai retenu, l'innovation démocratique. Ça fait des années qu'on s'interroge sur la manière d'articuler les citoyens à la démocratie représentative et là il y a une tentative pour faire quelque chose. Avec cette composition, vous l'avez évoqué, c'est 150 citoyens tirés au sort, mais c'est 150 citoyens formant un échantillon représentatif de la population française. Donc, très différent de ce que l'on avait vu pendant le grand débat dans lequel il y avait une déformation par rapport à ce qu'était la réalité de la société française. Intéressant par sa méthode, ils prennent le temps, ils recourent à des experts qui sont là presque comme des conseillers du prince que sont les citoyens, et surtout, et c'est ça peut-être le plus important, par l'ambition qui est faire des propositions pour que la France respecte ses engagements de réduction de 40% des gaz à effet de serre d'ici 2030, donc une ambition très importante avec un engagement du gouvernement qui est ce qui sortira de cette convention sera appliqué.
Mais pourquoi est-ce qu'il en serait différemment avec ce qui avait été promis à Nicolas Hulot lorsqu'il était pour le coup dans le gouvernement et qu'il n'avait pas donc seulement à prendre la parole devant ses 150 citoyens?
Écoutez, on va le voir, c'est l'engagement qui a été pris par le président de la République et par le Premier ministre. D'ailleurs, à l'issue du grand débat et du mouvement des Gilets jaunes, donc on va le voir, c'est peut-être plus difficile de ne pas tenir compte s'ils arrivent à trouver un consensus et à former des propositions. C'est sans doute plus difficile de ne pas tenir compte de ce que veulent les citoyens que ce que veut Nicolas Hulot, aussi populaire soit-il.
Natacha Polony.
Exactement. Il y a là, en effet, une certaine façon, il y en aurait d'autres, de répondre à la crise de la démocratie représentative dont on peut considérer qu'elle est un des éléments marquants de 2019. Et je rejoins Gilles sur un point, ce qui va en sortir va être très intéressant à la fois du point de vue environnemental et du point de vue politique, la question de savoir si le politique va accepter ce mode de délibération et la façon dont ce mode de délibération peut aboutir à des propositions. Ça va être très intéressant de savoir si ces propositions sont réellement innovantes, créatives.
Est-ce qu'elles peuvent l'être ?
Je n'en sais rigoureusement rien, si elles peuvent l'être. Le problème, c'est à la fois la façon dont se forge une opinion. Il est très intéressant de voir en effet comment fonctionne cette convention. C'est l'évolution de cette délibération. Mais in fine, j'ai une réticence. C'est que je ne pense pas qu'on puisse réfléchir à la question environnementale en dehors de l'ensemble des autres questions. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs pour ça que Nicolas Hulot s'était lui aussi heurté à un mur. C'est que la question environnementale est intimement liée à la question de l'organisation de notre système économique. Donc cette convention est innovante, elle est intéressante. Pour autant, les propositions qu'elle fera ne peuvent être que limitées parce qu'il faudrait pouvoir mettre en place un système radicalement différent pour qu'il y ait un véritable impact.
Gilles ?
Alors, elles vont être à la fois limitées parce qu'effectivement, il y a des sujets qu'elles ne vont pas aborder et en même temps considérables parce que si on veut réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, donc dans un horizon qui est un horizon court, ça veut dire qu'on touche à l'ensemble de nos modes de consommation et de nos modes de production. Donc, c'est à la fois limité, disons que ça ne remet pas en cause l'ensemble du système, mais ça va affecter à peu près la totalité du système quand même.
Ben justement, c'est toute la question que je me pose. C'est-à-dire que, en effet, ça nécessite de remettre en cause notre système de production et de consommation. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller jusque-là dans leurs propositions? C'est-à-dire réellement de mettre en cause l'ensemble du système du libre-échange, de la division mondiale du travail, parce que c'est ça qui est en jeu. Sinon, il n'y aura aucun changement. Donc, vont-ils le faire et est-ce que cela peut être accepté? C'est pour ça que je regarde avec intérêt.
Gilles, d'un mot, est-ce que vous pensez que des citoyens réunis, 150 citoyens tirés au sort, vous dites qu'ils seraient représentatifs de la population française, peuvent-ils faire preuve de plus d'imagination, avoir des idées plus novatrices que les ONG par exemple, ou les experts du climat, de la question écologique qui travaillent depuis des années ?
Écoutez, je n'en sais rien.
C'est une vieille question démocratique.
C'est une vieille question démocratique. Il y a cette question démocratique et il y a une autre question démocratique. C'est dans quelle mesure sont-ils plus légitimes? Parce que malgré tout, ils n'ont pas été élus. Sont-ils plus légitimes que ceux qui ont été élus à cette fin? Parce que c'est une autre question, une autre interrogation très profonde. Au-delà de leur capacité à faire des propositions innovantes, c'est qu'on n'est pas dans la démocratie directe au sens propre du référendum, comme on l'a quelquefois. On n'est pas dans la démocratie représentative telle que nos démocraties les connaissent depuis des siècles. On est dans quelque chose d'intermédiaire qui essaye de s'inventer, qui ne peut être utilisé que de manière exceptionnelle. On ne va pas gouverner un pays à coup de conventions citoyennes, mais on va voir si sur un sujet déterminant, à un moment, ça permet de débloquer la situation.
Un mot, Natacha ?
Cette question de la légitimité est majeure, dans la mesure où, quand vous dites, est-ce qu'ils seront plus créatifs que des ONG ? La question n'est pas qu'ils soient plus créatifs. La question est la reprise en main par les citoyens de leur capacité de décision, de leur destin. Les ONG font partie des experts qui doivent éclairer le citoyen sur ses choix. Mais in fine, nous sommes en démocratie, c'est le citoyen qui décide. Alors tout le problème, en effet, c'est que là, ce sont des citoyens qui ne sont pas élus et qui ne représentent pas, qui ne sont pas l'ensemble des citoyens. On n'est ni dans la démocratie directe absolue, ni dans la démocratie représentative. En revanche, ce que nous pouvons constater, c'est que cette forme-là est la réponse à un blocage absolument total de la démocratie représentative, parce que dans la démocratie représentative, actuellement, on voit une confiscation de cette légitimité par des intérêts qui se deviennent des intérêts de classe et une rupture entre les représentants et les représentés. La forme qui est mise en place là n'est pas forcément parfaite et ce n'est pas forcément la meilleure. C'est une des façons de traiter ce problème, mais je pense qu'il en faudra, beaucoup d'autres.
La suite du duel est pour vous, Natacha, en 2020. Que deviendra ce slogan « Manif partout, justice nulle part »
Pendant que Xi Jinping montre son pouvoir militaire en Chine, à Hong Kong, on est capable de défier le Parti communiste. Aujourd'hui, malgré le fait qu'il ait été totalement interdit de manifester, les gens sont quand même sortis dans la rue pour montrer leur détermination dans leur lutte pour la démocratie.
Ce qui se passe au Chili maintenant, c'est vraiment grave.
Non, ça peut essayer là.
Nous ne pouvons pas continuer ainsi à nous endetter pour acheter à manger, pour nous soigner, pour payer nos études. Les gens en ont marre.
Nous avons des prix vraiment élevés et des salaires vraiment bas. Alors nous ne pouvons pas vivre au Liban. Ils s'en foutent, ils veulent tout pour eux. Ils ne pensent pas au peuple.
C'était en 2019 et on se souvient tous de ces révoltes qui ont éclaté à Hong Kong, au Chili, au Liban. On pourrait continuer la liste. Je ne sais pas s'il faudrait y rajouter la France également, Natacha, mais vous vouliez revenir sur cette vague ou ces vagues de révoltes et la mondialisation d'un mouvement de protestation des peuples qu'il faudra surveiller au cours de cette année 2020.
Oui, bien sûr, et je pense que la France, bien sûr, doit être incluse, l'Algérie aussi, et ça nous montre quoi ? Ça nous montre qu'il y a d'abord une diversité, évidemment, entre ces différents pays et ce qui s'y est passé. On ne va pas mettre Hong Kong sur le même plan que ce qui s'est passé en France, ça n'a rien à voir. L'Algérie a un problème spécifique. En revanche, dans plusieurs de ces pays, on retrouve un élément extrêmement frappant. Parce que tout le lien, c'est l'usage des réseaux sociaux, une jeunesse qui communique et qui aspire donc à une forme de liberté. Là-dessus, on le retrouve absolument partout. En revanche, on retrouve au Chili, au Liban, en France, dans une bonne partie des pays développés, quelque chose, une autre forme de spécificité qui est la révolte des classes moyennes. Ces classes moyennes sont celles qui avaient émergé au cours du XXe siècle, sur lesquelles s'appuie en fait le pacte démocratique, et qui sont fragilisées par le système économique mis en place depuis 40 ans, qui est celui du libre-échange, celui de la dérégulation financière, la financiarisation du capitalisme, et tout cela se fait au détriment des classes moyennes. Il y a des très pauvres qui sont sortis de la pauvreté grâce à cette mondialisation. Les très riches sont les grands bénéficiaires, et entre les deux, tout à coup, c'est en train de craquer. Et je pense que 2019 a été l'année où apparaissaient de façon évidente les limites de ce cycle néolibéral et la façon dont des peuples, au sens large, veulent reprendre en main leur destin, veulent se saisir de leur capacité à se faire entendre, quitte à le faire dans la rue, pour essayer de remettre en cause ce système, ce qui, évidemment, provoque des révoltes extrêmement profondes qui ressurgiront. Pourquoi ? Parce que le système se défend.
Gilles.
Oui, il y a une, Natacha Polony a raison de le dire, je crois, une grande diversité dans toutes ces situations. Il y a quelques autres pays qu'on aurait pu ajouter à la liste. Révolte des classes moyennes, je vais revenir. Révolte sans doute des classes moyennes, ça mérite quand même d'être discuté. Des classes moyennes des pays européens, sans doute parce que, pour le coup, ce sont sans doute elles qui sont le plus victimes des révolutions à la fois numériques et de la mondialisation. Dans les pays émergents, c'est peut-être moins vrai parce que ce sont dans ces pays-là qu'il y a eu l'émergence d'une immense classe moyenne de plusieurs centaines de millions d'hommes et de femmes sortis de la pauvreté, et ce sont donc pas à proprement parler une révolte des classes moyennes. Révolte, en revanche, et c'est ça qui est peut-être qui fait le lien entre ces situations très diverses, je ne sais pas si on est dans une situation pré-insurrectionnelle, mais il y a quelque chose qui boue dans le monde entier et qu'il y a malgré tout, au-delà de la diversité, un certain nombre de points communs à ces différents mouvements, à la fois dans leur organisation, dans la manière dont ils organisent ces mouvements ou dont ils ne les organisent pas, pas de leader, beaucoup d'organisations via les réseaux sociaux, un appel souvent à la désobéissance civile, et surtout, sur le fond, le point commun, je crois, c'est que souvent ces mouvements sont déclenchés, non pas pour des raisons, au départ en tout cas, qui sont des raisons politiques, mais pour des raisons sociales, et qui souvent paraissent être, je ne dirais pas des détails, mais des petites choses. Une petite organisation, une petite augmentation du prix de l'essence ici. Une petite augmentation du prix du ticket de métro ailleurs. Une taxe sur WhatsApp, les communications WhatsApp dans un troisième pays. Et derrière ça, en fait, ces événements-là sont des événements significatifs, symboliques. Derrière, il y a une revendication sociale, mais aussi politique.
Oui, Natacha. Mais vous voyez, cher Gilles, les trois que vous avez cités, augmentation de l'essence, c'est la France. Augmentation du ticket de métro, c'est le Chili. Augmentation de, enfin, taxe sur WhatsApp, c'est le Liban. Et justement, dans ces trois pays, il y a là un enjeu qui est celui, on va dire, des classes moyennes, même si ce terme, je suis d'accord, prête à confusion, etc. Mais le Chili, par exemple, est un pays où justement cette classe moyenne avait réussi à émerger, où quelque chose, c'était, il y avait une stabilité qui était en train de se mettre en place et qui est abîmée aujourd'hui. Et en fait, à travers ces petits détails qui déclenchent la colère, il y a derrière tout cela l'idée que ces populations-là veulent continuer veulent perpétuer le pacte social qui était mis en place et en gros dont on peut dire qu'il s'est mis en place dans de très nombreux pays. Alors en Europe, c'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ce pacte politique et social justement qui appuie la démocratie sur la justice sociale, sur une forme de redistribution, et c'est tout cela qui est fragilisé aujourd'hui. Or, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a là très évidemment la fin d'un cycle, dans le sens où il apparaît évident, même pour les soutiens de cette dérégulation, qu'on ne va pas pouvoir continuer indéfiniment et qu'il va falloir réformer ce système. La question est de savoir comment et s'il faut seulement réformer ce système ou le changer radicalement.
Et puis avant de passer au débat, en 2020 aussi, des élections.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Je n'ai jamais vu le Parti républicain aussi uni. J'ai accompli un boulot formidable. Personne n'avait fait ça dans ces trois premières années.
Évidemment, Donald Trump, confiant en sa réélection, c'était le 18 décembre dernier. Ses sympathisants et ses soutiens hurlent for more years, 4 ans de plus en bon français. Et les élections américaines, c'est évidemment quelque chose qu'il va falloir regarder de très près. Elles auront lieu le 3 novembre prochain. Pourquoi faut-il être vigilant à ce qui va se passer aux États-Unis, Gilles, considérant que les États-Unis s'impliquent de moins en moins sur la scène internationale et que tous, autant que nous sommes, nous n'aurons pas à voter ni pour Donald Trump, ni pour son opposant?
Oui, on pourrait le regretter d'une certaine manière compte tenu de l'importance des États-Unis, on peut se dire que il serait légitime que l'ensemble de la planète vote pour élire le président des États-Unis et que les résultats seraient peut-être différents. Non, ces élections sont déterminantes, elles sont déterminantes pour les États-Unis, mais elles sont déterminantes au-delà pour le reste du monde compte tenu du poids des États-Unis. Et compte tenu de la personnalité de Donald Trump, 4 années de plus contribueraient davantage encore à fracturer à la fois les États-Unis et le monde. Ce sont des élections qui, par ailleurs, sont extrêmement indécises, dans la mesure où, quand on regarde sa popularité, Donald Trump est un président qui est peu populaire, mais qui n'est pas très impopulaire, mais surtout dont la spécificité est qu'il a un socle qui est d'une stabilité inoxydable. Il peut se passer n'importe quoi, et il se passe souvent n'importe quoi, sa popularité ne bouge pas du tout. On n'avait jamais vu ça pour aucun autre président américain. Et quand on regarde les intentions de vote, on voit que, pour l'instant, il est plutôt battu. Ça dépend un peu de qui sera le candidat démocrate, on y reviendra. Il est plutôt battu, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il avait déjà été battu dans le vote populaire et de manière très nette par Hillary Clinton, près de 3 millions de voix de moins.
En 2016.
Les experts ont calculé qu'il pourrait avoir 5 millions de voix de moins et être malgré tout élu. Et donc, encore une fois, compte tenu de la spécificité du système américain, il faudra regarder État par État.
Natacha.
Alors, premier point, cher Ali, quand vous dites, mais les Américains se retirent de la scène mondiale, etc. Mais jamais de la vie. Pas du tout. Ce n'est pas parce que Donald Trump...
Militairement, il n'y a pas eu de nouvelle guerre.
Non mais la guerre n'est pas que militaire. Nous sommes dans une phase de guerre commerciale violente, comme il n'y en avait pas eu depuis longtemps, et les Américains sont dans une poursuivent une politique d'impérialisme total. On le voit particulièrement vis-à-vis des entreprises européennes, et évidemment que la question de savoir qui dirige les États-Unis est majeure, même si justement sur la question de la guerre commerciale, Donald Trump ne fait que poursuivre ce qui avait déjà été mis en place par Barack Obama. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a des choses très intéressantes qui se passent du côté des démocrates dans cette élection. On voit une véritable réflexion sur le socialisme qui émerge aux États-Unis avec des propositions qui sont des propositions extrêmement novatrices et pour le coup qui décoiffent un petit peu, notamment de la part d'Elizabeth Warren. Alors évidemment, a surgi face à cela le candidat de Wall Street, parce que ce qui était intéressant, c'est que les démocrates jusqu'à présent n'avaient pas le candidat de l'establishment. C'est-à-dire ce qu'avait pu représenter Hillary Clinton face à Bernie Sanders. Là, ça y est, ils ont Bloomberg, qui incarne exactement ce que veut l'establishment. Mais à côté de ça, il y a une innovation idéologique, intellectuelle, dans la gauche américaine, qui est assez intéressante à suivre.
Gilles, je partage cette idée-là. Ce qui est très intéressant est ce qui va se passer du côté des démocrates. C'est intéressant pour les démocrates, c'est intéressant pour les États-Unis, mais c'est intéressant pour la réflexion de l'ensemble des gauches européennes. On va publier dans quelques semaines un essai de Célia Belin, qui est une chercheuse de la Brookings, sur la gauche américaine.
Spécialiste des États-Unis.
Spécialiste des États-Unis.
Et j'imagine que ON, c'est la Fondation Jean Jaurès.
Notamment,
c'est pas Marianne.
Pas seulement, c'est chez Fayard.
Mais ça pourrait.
C'est chez Fayard aussi.
On a des articles sur le socialisme aux États-Unis qui sont passionnants.
Non, ce qui est très intéressant dans ce qu'elle raconte, c'est quelle est la réflexion, quelles sont les différentes stratégies auxquelles réfléchissent les démocrates. Parce qu'il y a une première stratégie qui est celle qu'a évoquée Natacha. C'est la stratégie sociale, c'est-à-dire l'objectif, c'est de reconquérir l'électorat populaire qui a basculé vers Donald Trump. C'est les électeurs, les États de la ceinture industrielle. Et donc la réponse, c'est la radicalité dans le programme économique et social, la lutte contre les inégalités, c'est Elizabeth Warren. Mais il y a une deuxième stratégie qui n'est pas une stratégie sociale, qui est une stratégie sociétale.
Ah oui.
C'est, il faut mobiliser davantage les minorités, ce qu'on appelle les minorités aux États-Unis. Les Afro-Américains, les Hispaniques, les femmes que j'intègre là-dedans, enfin que les Américains intègrent là-dedans.
Oui, parce que hélas, dans ce discours-là, voilà.
Et donc, il faut valoriser des identités qui ont été des identités bafouées. Et puis, il y a une troisième stratégie dont on parle peu, mais qui est très intéressante, qui est non pas une stratégie sociale, non pas une stratégie sociétale, mais une stratégie politique, qui dit... Donald Trump a fracturé les États-Unis, il faut réconcilier les Américains. Mais non pas avec une politique modérée, mais une politique radicale de refonte des institutions. C'est Pete Buttigieg qui arrive. Et puis, ça c'est trois stratégies qui sont très, très colorées, très différentes. Et puis il y a, on peut dire, une quatrième stratégie, et tout ça c'est bien gentil. Le seul sujet c'est de gagner l'élection, il faut avoir le meilleur candidat pour cela. Hillary Clinton n'était pas une bonne candidate, c'est pour ça qu'elle a perdu, il faut pas chercher plus loin, et ça c'est la candidature de Joe Biden. Et donc on va voir, entre ces quatre stratégies, où ça va tomber, et c'est très important pour l'avenir de ces élections.
Il nous reste 10 mois pour regarder ça après, Natacha.
Oui, et en sachant que justement, il y a eu à la suite de l'élection de Donald Trump, une réflexion de la part de la gauche américaine sur les questions de savoir ce qu'ils avaient raté. Autant il y en a qui se sont contentés en effet de considérer qu'Hillary Clinton était une mauvaise candidate, autant d'autres sont allés un peu plus loin et justement ont compris que Donald Trump fracture aujourd'hui, mais qu'en fait, il avait... pendant sa campagne, parler de la nation et qu'il avait servi un discours qui était un discours supposé d'une façon de ressouder une part de la nation contre d'autres, mais de ressouder la totalité. Et que l'erreur d'Hillary Clinton face à ça, c'était d'avoir parlé à des différentes minorités, justement, en allant chercher à chaque fois une clientèle pour adapter son discours. La question de savoir si on peut parler à la totalité d'une nation, justement, ça va être une question intéressante.
Voilà, faut-il se ressembler pour s'assembler.
Exactement.
Nous sommes dans le grand face-à-face, le débat.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Faut-il se ressembler pour s'assembler? C'est la question que posait Gilles Finkelstein, question qui est évidemment inspirée d'une question que pose l'anthropologue et sociologue Nicole Lapierre dans un essai qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Livre passionnant qui interroge notre époque, qui est aussi un livre de combat contre les discours conservateurs, réactionnaires, ceux qui ne laisseraient aucune place faite aux minorités dans une société qui ne conçoivent la nation que sur le modèle d'une grande famille auquel il faudrait être assimilé en gommant absolument toutes les différences. Bonjour Nicole Lapierre.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS et vous avez donc pris la plume pour interroger ce qui ressemble à un proverbe qui est commun, qui est utilisé par beaucoup, beaucoup, qui se ressemble, s'assemble. Et c'est une fausse évidence et une fausse évidence qui se trouve derrière beaucoup de discours politiques, idéologiques qui sont aujourd'hui dans le débat public et notamment en France.
Absolument. Et justement, les proverbes, les évidences sont redoutables parce qu'ils s'imposent à tous. Ils paraissent indiscutables. Ça paraît être justement une sorte de d'idée que nous aurions tous en partage. Et certains proverbes peuvent s'avérer extrêmement dangereux. C'est le cas de celui-ci.
Alors justement, oui, expliquez-nous pourquoi.
Parce que si on considère qu'il faut se ressembler pour s'assembler, ça veut dire que on est toujours dans une société du même, dans une société de l'entre-soi, et donc dans une société qui ne supporte pas la différence, soit elle l'exclut. Et ça peut être de façon extrêmement radicale.
Oui.
Soit elle l'efface, et ça peut être une assimilation qui est un autre type de violence, moins grave, puisqu'elle n'est pas vitale, mais qui, au fond, détruit non pas les personnes, mais leur histoire, leur mémoire, leur culture.
Celle des groupes minoritaires, on va en parler dans un instant et je vais donner la parole dans une seconde à Natacha. Mais il y a quelque chose d'assez fort justement, parce que quand on tire le fil de cette pelote, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui en dépendent, mais qui en dépendent sur le plan du combat idéologique, effectivement, puisqu'il y a l'idée de la nature, l'idée de la famille qui sont derrière la conception qu'on se fait de la nation. Et puis, Nicole Lapierre, il y a quelque chose qu'on a envie de vous opposer comme principe, la République. La République et sa citoyenneté, elle efface les différences. Le citoyen est supposé n'avoir ni genre, n'être ni masculin ni féminin, n'avoir ni religion, ni de conviction traditionnelle. C'est un idéal universel. C'est un idéal qui finalement fait que tout le monde devrait se ressembler d'une certaine manière pour s'assembler.
C'est-à-dire que, au niveau des principes, c'est absolument magnifique. C'est vrai qu'il n'y a il n'y a pas de différence, pas de hiérarchie, une égalité totale. Mais c'est une égalité de façade, nous le voyons bien. En réalité, il y a des différences, il y a des discriminations, et surtout, le problème n'est pas qu'il y ait des différences. Les différences sont enrichissantes. Le problème, c'est qu'il y a une hiérarchie des différences. Toute la question est là. C'est
pas. Natacha Polony. Voilà.
Il y a énormément de choses déjà qui viennent d'être dites et qui font écho à ce que vous dites dans votre livre. Mais simplement sur la question de la République, il me semble que, justement, la République, c'est pas l'idée de l'universel neutre, c'est la question de la différence entre espace public et espace privé. Et le fait que l'espace public est neutre et qu'en revanche, chaque citoyen dans l'espace privé est riche de sa diversité, etc. D'où la question, en fait, du principe dialectique entre diversité et unité, qui me semble essentiel à mettre en avant. C'est-à-dire que quand on regarde la définition de la nation, par exemple chez Renan, qui définit la nation comme à la fois un plébiscite de chaque jour et un legs de souvenirs. L'articulation entre les deux est essentielle. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas... D'ailleurs, il insiste sur cette idée de l'un et du divers. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde doit être semblable. Il s'agit de dire qu'il y a un jeu permanent entre ce qui nous rassemble et ce qui fait que nous sommes différents et que cette différence enrichit le tout. Or, j'avoue que je n'ai pas retrouvé cette question, cette dialectique dans votre livre, puisque... On a l'impression que vous êtes soit sur l'idée qu'il y a ceux qui veulent l'unité totale en détruisant toute différence, soit, on ne sait pas. C'est-à-dire la différence, mais comment vous la définissez? Et du coup, justement, comment on s'assemble? Je n'ai pas eu ma réponse, en fait.
Ah, Nicole Lapierre.
C'est un problème, alors. Il y a, bien sûr, bon, c'est, nous sommes tous à la fois semblables et différents. Et bien sûr, théoriquement, la République, c'est la différence privée et l'égalité, l'indifférenciation publique. Ça, c'est au niveau des principes. Mais dans l'espace public, il faut pas, on n'a pas besoin d'être particulièrement pointu et sociologue pour constater que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc tout le problème, il est là. Tout le problème, il est dans ce gap entre les principes qui eux-mêmes donnent des aspirations et la réalité qui ne correspond pas.
Pour le dire très simplement, prendre quelques exemples concrets, vous attaquez la question des prénoms qui avait été mise dans l'espace public par Éric Zemmour, par une étude dans l'archipel français de Jérôme Fourquet, on s'en souvient, comme s'il y avait des prénoms qui disaient que tel ou tel individu, telle ou telle famille, tel ou tel groupe était inassimilable. Oui. À la communauté nationale.
Absolument.
Et vous reprenez la mais question pour dire que ça n'a aucun sens.
C'est pas seulement Zemmour, enfin.
Oui, bien sûr, mais Val, c'est juste l'un des noms.
Ce point de vue-là, c'est assez contestable. Oui, les prénoms, les accents, les noms de famille, enfin que sais-je, tout ce qui est... Parce que il faut voir quelque chose qui moi m'a frappé, m'a aussi beaucoup intéressé, c'est-à-dire quand on supporte pas la différence. Politiquement, dans l'espace public, je ne parle pas de l'espace privé, on peut y revenir, il y a une obsession du repérage. Il faut soit la retrouver, la repérer, c'est le nom, c'est l'accent, c'est l'origine, c'est la religion, tout ce que vous voudrez, ou soit l'effacer, c'est non pas l'intégration, c'est l'assimilation totale. Et cette question de la visibilité, de la différence devient absolument centrale. À tel point d'ailleurs que dans les sociétés, par exemple dans les États-Unis racistes, quand il y avait des passings, c'est-à-dire des noirs suffisamment clairs pour passer pour blancs, c'était quelque chose d'intolérable. Il fallait retrouver, dénoncer la goutte de sang noir. De même, par exemple, sous le nazisme, les juifs, il y avait ces expositions invraisemblables pour reconnaître le juif à ses oreilles, à son nez, que sais-je.
À sa différence.
Donc il faut même la fabriquer éventuellement.
Oui. Mais là, vous nous décrivez quelque chose qui relève d'une obsession qu'on retrouve chez l'extrême droite et qui n'est absolument pas majoritaire, heureusement, dans la société française. Mais vous ne nous expliquez pas comment, du coup, on construit une société qui respecte la diversité, et parce que malgré tout, la question c'est de savoir, c'est compliqué de s'assembler. Donc comment on fait ? Et deuxième question, il y a en effet, donc dans l'extrême droite au sens large, cette obsession de l'unité, quasiment de l'unité ethnique, de l'unité visuelle, vous en parlez, mais ça existe dans beaucoup de sociétés humaines. Bien entendu, on peut considérer qu'il y a dans certains pays une tentative pour sortir de là et pour s'assembler sur des questions politiques, c'est-à-dire sur des questions de valeurs. Et il me semble que c'est vers là qu'il faut aller, la question de savoir comment on définit les valeurs qui nous rassemblent.
Nicole Lapierre, Ludwig Finkelstein.
Oui, alors deux choses, c'est-à-dire que... Enfin, non, allons directement à cette question, comment on s'assemble. Je ne suis pas sûre qu'on s'assemble au niveau collectif, large, qu'on s'assemble uniquement à partir d'un socle commun de valeurs. On s'assemble, oui, à partir d'un socle commun de valeurs, souvent, et ça c'est dans les mouvements politiques, dans les mouvements religieux, etc. Mais on s'assemble vraiment quand on construit ensemble ces valeurs, pas quand on en hérite. Et c'est, vous parliez tout à l'heure dans votre débat de tous ces mouvements qui émergent un peu partout dans le monde.
Ouais.
Ils sont hétérogènes. Vous l'avez dit, vous avez essayé de les caractériser entre les classes moyennes, les classes populaires, etc. Ils sont hétérogènes et ils partent d'un sentiment d'inégalité, d'irrespect, d'impossibilité de prendre son destin en main, etc. Et c'est dans ce mouvement que se créent aussi des nouvelles valeurs communes, des objectifs, un avenir, des perspectives. pas dans l'héritage uniquement.
Mais ce sont les deux, c'est Renan, c'est le plébiscite de chaque jour et le legs de souvenirs.
Les Libanais sont-ils des lecteurs de Renan? C'est une bonne question.
Je voudrais repartir de la question des prénoms. Parce que je crois qu'il faut distinguer l'analyse les faits et de leur interprétation. Ce que montre Jérôme Fourquet, c'est à partir d'une analyse statistique des données de l'INSEE depuis un siècle, le fait que l'éventail des prénoms qui est utilisé en France s'est considérablement élargi et que de plus en plus, on voit que les différentes communautés, pas seulement religieuses, y compris géographiques, attribuent des prénoms qui leur ressemblent. Ça, c'est les faits. Après, l'interprétation peut donner lieu à des interprétations extrêmement différentes. Il y a celle que vous avez évoquée, que l'on voit bien, celle d'Éric Zemmour. On peut aussi, à l'inverse, dire que c'est la dernière chose qui reste de son identité passée ou même imaginée que le prénom. Bon, donc je crois que c'est important de faire les deux. Après, ce que je trouve intéressant dans votre livre, c'est justement de discuter l'indiscutable ou de remettre en cause un certain nombre d'évidences et d'essayer d'inverser la problématique, c'est-à-dire de dire, ce qui est un peu la thèse de votre livre, qu'il ne faut pas se ressembler pour s'assembler, mais c'est que parfois, en s'assemblant, on finit par se ressembler. Ma question étant, jusqu'où se ressemble-t-on et quelle ressemblance faut-il viser? Il y a eu un débat qui n'est pas seulement un débat sémantique qui a traversé la gauche et la France depuis plusieurs décennies entre l'insertion, l'intégration, l'assimilation, notamment des étrangers. Vous, qu'est-ce que vous prônez?
Nicole Lapierre.
Jusqu'à quel point faut-il se ressembler? Ça dépend des moments, ça dépend des enjeux. Il n'y a pas un pourcentage, une norme sociale de la ressemblance, fort heureusement. Et je crois, en effet, que c'est toujours un processus, c'est toujours une relation, c'est toujours des choses que l'on fait en commun pour se découvrir du commun. Et l'espace et le déploiement du commun peut être extrêmement extrêmement large.
Mais avouez quand même que dans le débat public aujourd'hui, on entend de très nombreuses voix qui disent « Ah tiens, ça c'est pas français. Ça relève pas de l'identité nationale. Ah non, la France c'est pas ça. »
Mais oui, mais ça me...
Ça fonctionne par de l'exclusion. Il suffit d'allumer sa radio et d'écouter quelques philosophes célèbres qui s'y expriment de temps à autre. Il suffit de lire pas mal de publications, mais pour s'apercevoir qu'il y a une véritable volonté de rejeter, de définir ce que serait l'identité dans sa pureté et dont seraient donc exclus tous ceux qui n'y entreraient pas. C'est en ce sens que vous critiquez uniformisation.
Je suis absolument d'accord avec vous et c'est un des motifs de ce livre. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a un climat quand même de plus en plus intolérant, de plus en plus replié sur l'entre-soi, qui ne se limite pas malheureusement à l'extrême droite. Une extrême droite qui, comme nous le savons tous d'ailleurs, a quand même pris de l'ampleur, mais qui ne se limite pas à l'extrême droite, qu'on retrouve non seulement dans la droite, mais parfois dans ce qu'on considère comme la gauche, qui a un peu infiltré comme ça, c'est-à-dire ces perspectives identitaire française a pénétré le débat public parmi de mille façons. Et je trouve ça très dommage et désolant. C'est pas seulement une question de morale, c'est une véritable perte pour nous tous.
Mais est-ce que il faut vous dites que ça a gagné non seulement l'extrême droite dont cette idée est constitutive, vous dites une partie de la gauche, est-ce que ça n'a pas gagné aussi sous une autre forme une partie de l'extrême gauche qui, à force d'exacerber les identités, finit par dire qu'on ne peut, il faut se ressembler pour pouvoir s'assembler?
Nicole Lapierre.
Je ne sais pas en quoi l'extrême gauche a exacerbé les identités.
On parle que de ça.
Et je ne sais pas. En revanche,
Natacha, vous souriez, qu'est-ce que vous disiez?
Oui. Non, je disais que il y a des mouvements identitaires à l'extrême gauche qui sont obsédés par ça, c'est-à-dire qui ne cessent de parler de la couleur de la peau, du genre, en permanence.
Nicole Lapierre.
Il faut faire alors. Juste un petit rappel. C'est ancien déjà. En 83, il y a eu le mouvement contre le racisme et pour l'égalité, qui était un mouvement très large contre le racisme, qui venait des banlieues de Lyon, enfin...
Ce qu'on a appelé ensuite la marche des beurs.
Mais c'est tout le problème. Eux, ils réclamaient de l'antiracisme et de l'égalité. Oui. Et on a collé cette image de la marche des beurs. Et donc, il y a quelque chose qui est en permanence interactif là-dedans. C'est-à-dire que on a créé la République et l'intégration et l'école républicaine, etc., ont créé de véritables espoirs. Ont créé de nouvelles générations qui se sentent français et qui ont en même
vous
temps...
Vous écrivez même, Nicole Lapierre, qu'avoir qualifié cette marche de marche des beurs était une trahison par
mais
rapport
oui,
aux idéaux
oui.
qu'ils portaient,
mais bien
ceux
sûr.
Qui étaient partis donc à pied de Marseille et de Lyon pour rejoindre la capitale.
Tout à fait. Et il y a eu beaucoup de déceptions et de trahisons comme ça, qui a nourri, en effet, c'est indéniable, qui a nourri des franges qui se sont repliés, qui ont... voilà, c'est quelque chose de très classique. La stigmatisation, elle produit le retournement du stigmate. Et on se réclame d'autant plus qu'on est stigmatisé. Voilà, mes parents parlaient d'israélites. Moi, j'ai commencé à parler de juifs en reprenant à une autre époque. C'est quelque chose
juste pour l'anecdote avant de vous laisser la parole, Natacha, parce qu'il y a quelque chose d'assez intime que vous racontez et c'est une histoire, j'imagine, que chacun peut ressentir ou en tout cas dont on peut avoir un écho dans son histoire personnelle. Vous vous engueulez gamine avec une camarade à l'école, vous rentrez chez vous et votre mère vous dit...
Non, c'est la mère de la copine.
C'est la mère de
la copine, mais peu importe. Elle me dit, on avait 6 ans, 7 ans, vous êtes toutes les deux juives, vous devez être amies, vous devez vous serrer les coudes. Et ça m'a marqué, la dispute, j'aurais oublié,
oui.
Ça m'a marqué, je n'ai pas compris, c'est pour ça que ça m'a marqué. Pourquoi il fallait être ami, pourquoi il fallait se serrer les coudes?
C'est justement là toute la question de l'identité qui se pose, c'est-à-dire quelle est cette identité et qu'est-ce qui nous rassemble exactement dans cette identité? Or, il y a une différence, me semble-t-il, entre l'identité de naissance, l'identité ensuite religieuse, de conviction, et la question de la nation qui n'est pas forcément fondée justement sur une identité ethnique, de langue ou quoi que ce soit. En tout cas, la nation française, ce n'est pas sa nature. Mais quand vous dites que il y a une obsession de se définir en rejetant les autres, attention, me semble-t-il, à ne pas confondre deux choses. D'abord, toutes les sociétés humaines ont toujours fonctionné comme ça. On peut se réjouir d'en sortir, et je pense que il y a tout de même, si on regarde à l'échelle de l'humanité, une forme de progrès vers le refus de cette façon de se définir en excluant, en marquant la différence entre un « nous » et un « eux ». En revanche, il y a une question de perpétuation d'une société, parce que quand vous dites qu'on s'assemble parce qu'on découvre du commun par le mouvement, oui, mais on ne part pas de rien, on ne part pas d'une base qui n'existe pas. La question est de savoir comment ce qui existait peut se perpétuer tout en se transformant. Est-ce que une civilisation a le droit de se perpétuer? Et du coup, comment elle fait pour intégrer ceux qui viennent d'ailleurs tout en se perpétuant? Elle est là, la complexité. C'est pas si simple.
Nicole Lapierre.
C'est en effet une complexité. Là-dessus, nous sommes d'accord. Et elle est faite, on n'est que dans un processus. Bien, il y a à la fois, bien sûr, il y a de la mémoire, il y a de l'héritage. Il y a des mémoires, il y a des héritages, il y a du commun, de l'éducation, de l'école, d'un vivre ensemble dans un quartier, dans une ville, etc. On ne part pas de rien, bien sûr. Mais en même temps, on en fait quelque chose. On en fait quelque chose dans la rencontre, on en fait quelque chose dans l'échange, on en fait quelque chose dans des projets qui sont des projets de vie, qui sont des projets politiques, qui sont des projets dans l'entreprise, là où on travaille, etc. C'est tout ça ensemble qui fonctionne. Et là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que je crois que vous idéalisez un petit peu la nation. La nation française s'est quand même construite d'abord sur un modèle, comme beaucoup d'ailleurs, sous l'Ancien Régime, sur le modèle de la famille, avec voilà le souverain père du peuple. Enfin, ça peut être aussi le petit père du peuple dans un autre régime. Voilà, on en est sorti, mais entre une certaine forme au 19e de républicanisme et d'importance accordée au modèle familial traditionnel, il y a eu énormément d'interconnexions.
Qu'est-ce qui vous déplaît dans l'expression de famille républicaine ou de famille nationale, par exemple, pour qu'on comprenne bien ?
Ben justement, c'est une confusion. La famille est une institution. Tout anthropologue, c'est ça. La famille n'est pas naturelle. Mais on pense que la famille est naturelle. Et dès lors qu'on part d'une famille naturelle, c'est un peu le sens commun, on se dit qu'il y a quelque chose d'un peu naturel aussi dans une forme de pouvoir telle qu'il est organisé, même sous la Ve République.
Vous évoquiez tout à l'heure la marche pour l'égalité de 1983 et les espoirs déçus de non seulement de l'intégration, mais même de la réussite de la méritocratie républicaine. On a publié il y a quelques mois une enquête sur les discriminations envers les musulmans qui montrait que à la fois
c'est toujours la Fondation Jean Jaurès, c'est pas Marianne.
Marianne en a parlé aussi, qui montrait que dans les étapes déterminantes de la vie qui étaient la recherche d'un emploi ou la recherche d'un logement, ces discriminations demeuraient très importantes. Donc ça, je comprends ce que vous dites après sur le retournement du stigmate, mais est-ce que vous convenez que le fait de figer des identités est un problème et est en contradiction avec une espèce d'universalisme républicain auquel on pouvait adhérer? Et puis je prolonge la question, vous parliez tout à l'heure du déploiement du commun. Quelles sont aujourd'hui pour vous les institutions qui peuvent créer du commun? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que d'une certaine manière, les retraites, notre système de protection sociale est quelque chose qui crée du commun? Est-ce que c'est notre histoire? Comment on crée du commun pour s'assembler?
Nicole Lapierre.
Le système de protection sociale, indéniablement, a créé du commun. L'école, très longtemps, a créé du commun, comme le service militaire, quand il existait, bien sûr. Absolument, du point de vue y compris d'une certaine mixité sociale, parce que le commun c'est pas uniquement l'étranger, l'immigré, aujourd'hui le musulman. Il y a aussi des différences sociales qui s'accroissent. Vous parliez tout à l'heure de l'ultralibéralisme, et là aussi il n'y a pas nécessairement du commun. Ces institutions sont de plus en plus en difficulté. C'est pas une nouvelle, ça. La protection sociale est un peu entamée, d'où le mouvement aujourd'hui. Donc, il faut penser de nouvelles institutions. Il faut penser peut-être des choses qui ne sont pas toujours attendues du pouvoir, mais qui partent aussi d'un pouvoir par le bas, par municipal, par exemple. Je trouve que les expériences espagnoles sont assez passionnantes, parce que là, on peut construire, en effet, du commun dans une proximité. Il faut inventer des choses. Vous disiez, le système ultralibéral peut pas continuer comme ça. Peut-être que notre système politique, un peu pyramidal et uniquement dans une représentativité, dans le modèle représentatif qui a ses limites, c'est pas pour le supprimer, mais c'est une démocratie de basse intensité. Il faut repenser tout ça.
Et puis il y a la littérature, il y a Édouard Glissant, il y a Kamel Daoud que vous citez notamment. Natacha ?
Oui, moi je voulais juste vous parler du commun, de tout ce qui va créer du commun. Mais justement, la caractéristique du système néolibéral tel qu'il est en place actuellement, c'est qu'il considère que nous sommes des individus ou des communautés et que nous interagissons grâce à la régulation du droit et du marché. Et que donc nous n'avons pas besoin de partager ni une mémoire, ni des valeurs, ni quoi que ce soit. Or, il me semble que c'est la définition minimale des sociétés humaines, ou même de la non-société, de l'incapacité à faire société. Et je pense que ça crée de la souffrance et que ça crée du malheur. Donc toute la question est de savoir comment on crée du commun et comment on le définit. C'est-à-dire, est-ce que il faut à un moment donné se mettre d'accord sur les valeurs qui ne sont pas négociables parce que elles caractérise ce qui fait que nous avons envie de partager quelque chose. Je donne un exemple. Si nous considérons que dans ces valeurs, il y a l'égalité homme-femme, par exemple, jusqu'où accepte-t-on une différence qui va à l'encontre de cette égalité homme-femme ? Il y a des choses qui, me semble-t-il, ne sont pas négociables et à partir de là, on peut intégrer la diversité dans ce minimum commun, ces valeurs qui se perpétuent et qui sont ce qui nous soude.
Oui.
Nicole Lapierre.
Je pense, juste rapidement, que l'ultralibéralisme peut très bien s'accommoder de politique nationaliste, mais c'est pas le sujet essentiel de votre question.
Il y a une forme de néolibéralisme autoritaire et nationaliste,
mais alors,
c'est pas le problème.
Le commun, les valeurs sur lesquelles on s'accorde. Tout est dans la façon de s'accorder. Bien sûr que, alors, dans un espace social, et alors, est-ce qu'il est local, est-ce qu'il est national, est-ce qu'il est international, etc. On peut définir, par la concertation, des valeurs et des objectifs communs. Parce que on parle toujours de valeurs, il y a les valeurs, bien sûr, il y a des choses pour un groupe non négociables, et il y a aussi des espoirs, des perspectives, ça me semble extrêmement essentiel. Pas seulement l'héritage, c'est ce qu'on a envie de faire ensemble. C'est très très important ça.
Est-ce
qu'il y a un petit peu sous-tendu dans votre question, il me semble, c'est alors c'est non négociable, l'égalité homme-femme. Ok, je suis absolument d'accord, je trouve que ce mouvement MeToo est tout à fait passionnant. J'étais moi-même très féministe à une époque, enfin je le reste, mais militante féministe à une époque. En revanche, je ne crois pas, même si ces valeurs nous paraissent fondamentales, qu'on va les imposer par la force. Je me souviens, j'enseignais à des étudiants américains, c'était après cette affaire de burkini sur la plage. Et cette image avait circulé dans le monde entier de cette femme avec son burkini et des trois flics debout, les mains sur les hanches, elle était assise sur la plage. Et mes étudiants américains étaient absolument sidérés parce que l'image parlait d'elle-même. Enfin, c'était voilà trois hommes, trois policiers et qui cernaient cette femme pour qu'elle se déshabille. C'est pas comme ça qu'on émancipe les femmes, je crois.
Mais je n'ai jamais dit que c'était comme ça qu'on émancipait les femmes. En
il
revanche, si nous concevons qu'il y a actuellement un mouvement, certaines idéologies qui sont en train de remettre en cause l'égalité homme-femme, la question est de savoir, c'est pas une question de coercition, c'est comment on explique qu'il y a des valeurs que nous devons absolument défendre et qui, si nous ne les défendons pas, alors, ce sur quoi nous fondons notre société disparaît.
Nicole Lapierre.
Oui, mais comment défend-on ces valeurs ? En les expliquant, pas en stigmatisant. Moi, ça ne me pose pas un problème majeur d'avoir des étudiantes qui portent un voile sur la tête, qui par ailleurs sont maquillées, ravissantes et tout. Et je pense que si elles viennent étudier et si elles apprennent, si elles ne sont pas repoussées, les choses viendront.
Et il faut dire d'ailleurs que dans votre livre, l'essentiel, c'est quand même le combat contre ceux, par exemple, qui prennent le grand remplacement ou qui ont peur du grand remplacement.
Absolument.
C'est contre ces formes de racisme-là, c'est contre ces discours pour lesquels il y a de l'inassimilable, je ne sais pas comment le dire, notre société. Faut-il se ressembler pour s'assembler ? Merci Nicole Lapierre, c'est passionnant et c'est un livre qui va faire débat, publié aux éditions du Seuil. Merci d'avoir été notre première invitée de cette année 2020. Merci Natacha. Chat et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Paola Puerari a préparé cette émission. À la réalisation, Lauriane Toulmont. À la technique, Louis Audebert. Merci.